With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, une émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous rappelle les trucs importants, on les explique, on les analyse et au final, en une heure, vous savez tout ce qui s'est passé dans cette merveilleuse industrie, dans notre hobby qui a tellement de succès en ce moment. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler d'un événement incroyable pour Microsoft, c'est-à-dire l'établissement du logo d'une console à venir. On va tout décortiquer, non bon ça on va juste le mentionner vite fait. Il y a aussi des plans que Sony semble avoir mis en place pour le lancement de la PlayStation 5 que Bloomberg aurait espionné. On va en discuter également. Et puis, on va parler aussi peut-être des jeux auxquels on est en train de jouer. J'ai beaucoup joué à Final Fantasy VII, notamment, de plein d'autres petites news. Et pour m'aider à décortiquer tout ça, alors, généralement, je présente la personne qui est avec moi régulièrement, donc ça serait Escarina. Mais en même temps, aujourd'hui, on a mon plus vieux compagnon de podcast, littéralement. Donc j'hésite avec qui est-ce que je vais commencer. Bon, je vais commencer avec les plus beaux, donc on va commencer avec Escarina. Bonjour Esca, comment ça va ?
Ça va, tu te rattrapes bien. Ça va très bien. Mais j'aurais pas du tout été vexée que tu commences par ton ami.
Oui, tu préserves le mystère, c'est ça, c'est bien. Bon, je ne vais pas le faire attendre plus longtemps. Dany est là avec nous. Comment ça va, Dany ?
Eh ben super bien. Alors, je veux juste rectifier quelque chose. Hein. Ton plus vieil ami de podcast, non, ton ami avec qui tu as fait des podcasts depuis le plus longtemps possible, mais pas le plus vieux. Je ne suis pas vieux. J'ai 16 ans dans ma tête.
Un fusant diplomatique.
Oui, mais on a tous 16 ans dans notre tête, en fait. C'est peut-être ça le problème. Daniel Charby, qui, d'ailleurs, il se trouve que ton métier va nous être très utile pour essayer de comprendre un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, puisque tu travailles toujours chez Dell aux dernières nouvelles, et vous avez des questions d'approvisionnement et de vente qui se posent très directement à vous, alors sans trahir un quelconque secret professionnel. On va en parler quand on parlera des plans de Sony avec la PlayStation 5 et sa production. Tu vas peut-être nous éclairer de ta connaissance, dont soit on pourra être reconnaissant à terme s'il se trouve que tu avais eu raison, soit on pourra en rire et se moquer de toi si on se rend compte à la fin de l'année ou l'année prochaine que tu n'avais pas eu raison. Est-ce que ça te convient comme deal ?
Ah bah, on peut toujours rire de moi de toute façon, donc commençons.
Super, merci. Je suis toujours content d'avoir Dany dans l'émission, je ne veux pas diminuer la contribution d'Escarina, mais je suis toujours content d'avoir Dany dans l'émission parce que les plus vieux, ceux qui écoutent les émissions depuis le plus longtemps se souviennent que j'ai commencé avec Azeroth.fr avec Dany. C'était mon début dans les podcasts, donc c'est toujours émouvant.
Ben oui.
Eh oui. Alors, avant de nous lancer dans les sujets, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement, qui soutiennent sur Patreon, et notamment Monsieur Chapeau, Jérôme Claire, Jérôme Riant, Drax, Cortépice, Eriagan, ça sent le nom de jeu de rôle, ça. LDVC, PLGL, dont on sait que c'est un diminutif, Davy, Crétal, Mathieu Enras et Olivier. Merci à vous tous de soutenir l'émission et vous pouvez tous le faire sur patreon.com/rdvjeux. C'est grâce à ça que l'émission existe vraiment. On va commencer comme promis avec Microsoft et le logo de la Xbox Series X qui a été révélé dans un dépôt de marque. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un Series en vertical et un X qui est en fait une barre transversale et puis l'autre qui est un petit peu coupée en deux tout petits morceaux. C'est un petit logo. c'est pas forcément la chose la plus incroyable qui soit, mais quand on met ça en conjonction avec ce que semble dire notre ami Daniel Ahmad sur Twitter, ça nous laisse penser qu'effectivement, alors ce que dit Daniel Ahmad, c'est que les plans de présentation des consoles auraient lieu possiblement pour les deux nouvelles consoles, nouvelle génération, en mai. Évidemment, Microsoft avait prévu à l'origine de présenter la sienne, la Series X en tout cas, en juin, pendant l'E3. Ils auraient potentiellement avancé leur date de présentation en mai, et Sony serait également de la partie à un moment en mai. Et là, on est à une semaine du mois de mai, donc ça s'approche vraiment, vraiment beaucoup. Donc, deux questions. Je vais commencer avec Escarina. D'abord, est-ce que tu trouves ce logo super méga beau? Et d'autre part, est-ce que tu crois aux deux présentations en mai? Une, ça semble très possible, mais les deux, c'est peut-être un peu moins probable. Est-ce que toi, tu y crois?
Les deux, effectivement, ça semble improbable. Après, je pense qu'ils vont en maintenir au moins une pour garder le rendez-vous de mai. Je pense que surtout dans le contexte actuel, maintenir un maximum de choses... quand c'est comme ça dématérialisé entre guillemets, ça semble assez important pour tout un tas de raisons. Après, le logo en lui-même, heureusement qu'on sait que c'est un logo Xbox, parce que franchement, je l'aurais pas reconnu. Mais je t'avouerai que il m'en faut un peu plus pour me hyper ou
qu'un petit logo.
C'est pas forcément l'événement du siècle pour moi, mais.
Bah, je pense qu'il y aura le logo Xbox d'un côté et puis le Series X comme ça de l'autre. Donc ça sera pas séparé du logo Xbox. On peut imaginer aussi qu'il y aura un Series S qui va arriver très bientôt, si jamais cette fameuse deuxième console Xbox est confirmée. Moi, ma prédiction d'ailleurs, comme j'en parlais dans l'émission anglophone, c'est que la Series S ferait aussi du ray tracing, mais peut-être uniquement en 30 images secondes et en 1080, qu'elle ne ferait pas la 4K, qu'elle aurait quelques teraflops de moins, mais je pense qu'elle fera du ray tracing et ça sera son argument de vente, du ray tracing en local et puis peut-être bien sûr le xCloud comme toutes les machines du monde pour Microsoft. Dany, pendant que ton... Il y a ton camion qui recule là, fais attention. Hein.
Ouais, on l'entend, ouais, c'est assez bruyant, hein, mais tu sais qu'on est au 9e étage avec du double vitrage et tout, donc j'imagine même pas ce que ça doit donner en bas là, le camion qui recule. Mais bon, il y a un immeuble en construction juste en face en fait, donc c'est...
C'est pour ça.
Bref. Ouais. Et alors sinon, donc pour le logo, bah, je trouve totalement fantastique. Hein. Je vais me le tatouer sur le crâne, je pense. voilà, je pense que c'est un game changer. Et si je dois choisir une des deux consoles, c'est par ce logo. Je vais clairement prendre la privilégiée Xbox Series X.
Je comprends.
Bon, maintenant, sinon, blague à part, c'est un logo. Bon, il révolutionne pas grand chose. Moi, ce qui m'intéresserait un jour, c'est de parler à quelqu'un qui pourrait m'expliquer et me dire combien de temps et d'efforts en fait les compagnies type Xbox, PlayStation vont investir dans des logos. Tu vois, est-ce qu'un logo, faire un logo comme ça, est-ce que ça prend 3 mois de boulot pour 50 personnes et que ça coûte des centaines de milliers de dollars ou des millions ou enfin.
Moi, je pense que là, il y a juste un mec qui a écrit Series X en Arial sous Word et puis
c'est fini. Oui, mais alors, connaissant la façon dont les grosses entreprises fonctionnent, même si c'est un mec qui a fait ça, j'imagine que ça a dû être très long et très difficile d'arriver là.
Ben oui, c'est ça. C'est toujours compliqué ce genre d'histoire et on a les comment dire. On se moque souvent des boîtes qui payent des dizaines de milliers d'euros pour faire concevoir un logo, mais c'est pas si simple que ça en fait. Il faut que le logo exprime quelque chose, exprime l'esprit, si ce n'est les qualités du produit et de la boîte que tu veux vendre aux consommateurs. Il faut que ça soit compatible avec le reste de ta charte graphique. Enfin, tu peux pas juste... Évidemment, quand tu as le résultat final, tu vas dire « Ah bah oui, je l'écris, je le fais comme ça facilement. » Mais il faut voir toutes les étapes qui ont mené à ce choix, tous les autres choix qui auraient été possibles. C'est vraiment...
Mais il y a aussi des choses un peu plus terre-à-terre aussi. Hein, parce que, tu vois, par exemple, le visuel, il est ce qu'il est, mais il faut surtout pas que ce soit une insulte, par exemple, au Turkménistan ou je sais pas où. Ouais. Tu vois, dans un pays auquel tu n'aurais pas forcément pensé, où tu dis ouais, le X de telle manière, c'est une insulte terrible.
Il y a sûrement des gens qui vont voir une croix gammée dans le logo, ça c'est sûr. Hein.
Bon, là, la croix gammée, il faudrait mais vraiment là, le vouloir. Peu, ouais. Hein, mais...
ouais, c'est ça.
Mais disons que là, tel qu'il est, je trouve que c'est une sorte de signe qui est facile à... Vu comme ça, c'est le dépôt de marque, hein, c'est quand même très basique, mais je peux tout à fait imaginer une animation qui perce un trou avec la musique et le truc, il fait... et la lumière qui passe à travers, enfin, c'est quelque chose qui peut être, c'est un sigle en fait, c'est pas juste un X, c'est un sigle, et je peux tout à fait comprendre que ça soit quelque chose qui soit plus travaillé qu'on ne le pense vraiment sur une marque comme ça, mais bon, c'est vrai que ça semble assez simple, mais moi, plus j'y réfléchis, plus je le trouve pas si mal que ça en fait.
Et ils oublient le vert du coup, le vert Xbox a priori, là, pour l'instant bah... sur du noir.
On ne sait pas. Bah, d'une part, c'est le logo, comme je le disais, de Series X et pas de l'ensemble de la marque Xbox. Et puis surtout, là, c'est la marque qui est déposée. La manière dont ils le retravaillent ensuite, je suis sûr qu'ils peuvent le retravailler de 1000 façons différentes. Enfin bon, bref, parlons maintenant des plans de Sony. Comme je le disais, il y avait un rapport de Bloomberg qui est quand même... une publication assez connue et fiable qui a plusieurs sources selon lesquelles les projets de Sony pour la production de la PlayStation 5 ne sont pas retardés par la pandémie. On va pouvoir en parler peut-être un petit peu avec Dany, mais ils ne sont donc pas retardés par la pandémie, mais ils produisent quand même moins de consoles, ou en tout cas ils prévoient de produire moins de consoles qu'au moment du lancement de la PlayStation 4, parce que la console sera plus chère. C'est ce qu'on semble en comprendre. Les composants sont évidemment plus chers qu'à l'époque pour la PlayStation 4, puisque comparativement la console est plus puissante, et surtout elle a des composants chers comme le SSD, qui coûte très très cher, et la RAM, qui est un type de RAM qui est très rapide et qui est très recherché dans tous les composants, enfin par tous les fabricants d'électronique. Donc c'est plus difficile d'en obtenir, donc les prix montent. Bref, console plus chère et donc demande réduite, parce que évidemment, quand on augmente le prix d'un produit, il y a moins de gens qui veulent l'acheter. Donc on se retrouve à une estimation de 5 à 6 millions de PlayStation 5 produites pour les 6 premiers mois, contre pour la PlayStation 4 sur la même période, la période de lancement des 6 premiers mois, 7,5 millions de consoles produites. Donc on passe de 7,5 à, schématiquement, 5,5. C'est évidemment une baisse substantielle, mais c'est pas non plus qu'il va y avoir 40 consoles pour lesquelles les gens vont devoir se battre à mort pour les obtenir. Moi, je me dis que ça veut pas forcément dire grosse rupture de stock, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'effectivement la demande sera moins élevée, d'autant plus que, comme je le disais, c'est relatif au prix, et selon certains, alors là, sur l'estimation du prix, c'est un petit peu moins fiable, mais certains estiment que le prix pourrait être entre 500 et 550 dollars. On traduit généralement ça exactement en euros. Donc, on va dire 500 à 550 euros, ce qui est très, très cher. Du coup, moi, je me dis que, comme le pensent certains analystes, à la fois Microsoft et Sony pourraient bouffer une partie du coût pour mettre les consoles à 450 euros et donc les garder relativement... abordable. Disons que 50 euros de plus que le prix de lancement de la PlayStation 4 semble être un tarif acceptable. Il est possible d'ailleurs qu'on ait une Xbox Series X qui soit un peu plus chère et une Xbox Series S qui soit un peu moins chère. Moi, je vois bien une Series S à 400 euros. Très, très attractive, une PlayStation 5 à 450 et une Series X à 500. Bon, c'est le scénario que j'imagine. Je note encore que avec mon sondage tout à fait anecdotique, j'ai posé la question sur Instagram à mes followers et j'ai demandé combien d'entre vous seraient prêts à acheter la console pour un prix de 450 euros, 500 euros, 550 euros et 600 euros. À 400, je pars du principe que la plupart des gens voudraient l'acheter, comme la PlayStation 4 qui a eu beaucoup de succès. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que pour chaque 50 euros supplémentaires, on perd la moitié, à peu près, plus ou moins, des intentions d'achat. À 450, on est quand même à 60% d'intentions d'achat. 500, on passe à 30%. 550, 15%, et 600, 10%. Donc, pour moi, avec ces informations tout à fait anecdotiques, je me dis que 450 serait quand même... il serait difficile d'aller au-dessus de 450, parce que 500, ça devient une somme vraiment importante. Mais bon, ça, c'est juste les estimations de Patrick. Du coup, je me retourne vers Dany. D'abord, est-ce que tu crois que 5-6 millions... ça serait effectivement quelque chose qui pourrait satisfaire à la demande pour la PlayStation 5 à un prix de 450 à 500 euros, ou est-ce que tu crois qu'il y aurait des ruptures de stock importantes? Il y a toujours quelques magasins qui n'en ont plus, mais des ruptures de stock importantes. Et ensuite, et surtout peut-être, est-ce que tu penses que Sony pourra en faire fabriquer autant au milieu de la pandémie, là où les demandes sont importantes, et tu le constates dans ton boulot toi aussi?
Ouais, alors bah déjà en fait, tu vois la réduction en fait de ce qui planifie en fait, tu vois, si tu parlais de 5,5 millions d'unités en gros, ça fait quand même une réduction donc de 25-26% par rapport à la PS4, ce qui est pas forcément déconnant en fait avec les prix que tu mentionnais, tu vois. Et je me souviens plus exactement à combien la PS4 a été lancée, devait voir
à 399. C'est ça,
ouais, ouais, 399. Ouais. Et justement, et tu disais qu'on perd en gros 50% par tranche de 50 euros, etc. Donc, premièrement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pénurie s'ils arrivent effectivement à avoir ce stock là. Et la deuxième chose, c'est effectivement tout semble indiquer qu'on soit allez entre 449 et 499, j'espère. Bon. Mais passer la barrière psychologique des 499, à mon avis, c'est faut être très très courageux.
Mmh. Ouais, je pense aussi que c'est très peu probable, surtout qu'on se souvient du four qu'avait fait la PlayStation 3 à 600 euros, et je crois que Sony s'en souvient encore mieux que nous tous réunis. Donc, je me dis que les barrières psychologiques de prix sont importantes. Faut noter aussi que il n'est pas du tout impossible qu'on passe à ce moment, dans les mois à venir, aux effets réels de la crise économique provoquée par la crise sanitaire. Et donc, les gens auront sans doute moins d'argent, ou une partie des gens en tout cas. Donc, ça contribuera là aussi. Je reviens à ma deuxième question, la deuxième question que je te posais, Dany. Est-ce que, à ton avis, l'idée que... Alors, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent hein, chez Bloomberg, mais le fait que... Sony ne semble pas avoir de problème pour la production des consoles malgré la pandémie. Toi qui as le nez là-dedans en permanence, parce que bon, l'un des plus gros fabricants de PC au monde, bah, vous gérez les composants et la fabrication en flux relativement tendu en permanence, et dans la situation actuelle, bah, vous expérimentez la chose, vous êtes au premier plan des problèmes que ça pose. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette non-incidence de la pandémie sur la fabrication des consoles ?
Eh ben, soit ils ont déjà les stocks et ils ont extrêmement bien planifié leur supply chain, c'est possible, hein. Ou alors, ils ont déjà prévu, en fait, ils sont plus optimistes que l'état actuel du marché sur l'évolution de la situation. Parce que finalement, produire des machines, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est aussi de s'assurer que les fournisseurs donnent, tu vois, les processeurs, les cartes graphiques, les SSD, les alimentations, les bouts de plastique qui vont par-ci et par-là. S'il manque quoi que ce soit, ça casse en fait une partie de la chaîne, et c'est là, à mon avis, d'où peuvent venir les complications, parce que finalement, ce que Sony contrôle, hein, c'est finalement ce qui se passe dans ses usines, mais pas forcément dans celles de ses partenaires. Et donc, la façon dont l'évolution de la crise sanitaire va évoluer, va impacter les différents fournisseurs. Voilà, je suppose que Bloomberg doit avoir des sources d'informations très pointues là-dessus, mais c'est planifié à 6 mois, c'est quand même dans longtemps. Hein.
Je lis en filigrane ce que tu es en train de dire, et puis je connais ton caractère aussi. J'ai l'impression que tu es quand même en train de dire que ça te paraît compliqué. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je surinterprète?
La situation peut changer du jour au lendemain en ce moment, hein, donc c'est compliqué. Alors ensuite, ils sont sans doute excellents dans ce qu'ils font, hein, mais c'est bien, j'espère, hein, parce que j'ai hâte d'avoir une PS5, hein, malgré le logo qui est forcément beaucoup moins beau que celui de la Xbox. Mais sinon, franchement, sérieusement, y a tellement de choses qui sont quasiment incontrôlables dans la situation actuelle. Finalement, tu vois, une résurgence de la crise sanitaire en Chine, ou une ou deux usines qui peuvent fermer chez un fournisseur, ça peut impacter fortement le lancement, à moins effectivement qu'ils aient déjà tout en stock. Alors là, ils sont très très forts.
Oui, c'est pas comme ça
que ça coûte cher aussi. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne généralement et ça coûte extrêmement cher, tu vois. Toutes les composantes une à une, enfin, tu vois, en stocker 5 à 6 millions, waouh.
Oui, je doute que ça soit le cas, oui. Je doute que ça soit le cas. Oui, pardon, voilà. Est-ce qu'il y a donc, quelque chose ?
Non, mais je disais tout simplement que si tout le monde est impacté, je vois pas pourquoi eux ne le seraient pas non plus. Après, qui tiennent ce discours-là pour rassurer investisseurs et futurs acheteurs, certainement, mais.
Alors, eux, ils tiennent aucun discours, hein, soyons clairs. C'est Bloomberg qui a entendu, avec les bruits de couloir, qui fait ses estimations. Eux, chez Sony, ils n'ont rien dit encore. Ils n'ont même pas montré à quoi ressemblait la console. Ils n'ont pas annoncé officiellement ce que c'était. Donc. Bon, ils ont
et puis finalement, tu vois, les hausses de prix, c'est peut-être aussi, à mon avis, un moyen de limiter la demande à des choses qui vont penser être plus atteignables en termes d'objectifs et dire, voilà, bah, peut-être qu'au lancement, ils vont être un peu plus chers parce qu'il n'y aura que les early adopters, il n'y aura pas forcément un line-up extrêmement conséquent, etc. Pouvoir dire, voilà, bah, on va commencer à 550 et dans un an, à Noël, ils vont faire un super pack avec une PS5 améliorée, light et 12 jeux pour 449.
Ouais. Fais gaffe, Dani, ton micro frotte contre tes vêtements, j'ai l'impression. Ou ta barbe fournie. Ah,
très bien. Mais c'est ma barbe, ouais. Là, je me suis pas rasé depuis des semaines.
Ouais, moi, franchement, le prix de 550, j'y crois pas, comme on le disait tout à l'heure. Mais oui, peut-être qu'ils se sont dit, bah, on abandonne l'idée de faire moins de. Peut-être qu'ils vont être à, je sais pas moi, 479. Et que du coup, ça. Comme on en parlait il y a quelques temps déjà. Comme ils savent que de toute façon, ça va être compliqué d'en construire beaucoup, d'en faire fabriquer beaucoup, ils disent bah, on va relever le prix pour pas qu'il y ait d'émeutes et on pourra les vendre plus cher parce qu'il y aura moins d'offres, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, moi, je pense effectivement que en l'état actuel des choses, peut-être que tout semble bien aligné dans les mois à venir pour commencer la production de masse, mais je comprends ce que tu dis aussi, Dani, et certainement c'est le cas. On est dans une situation tellement volatile que tout peut changer du jour au lendemain. Ceci dit, s'ils estiment qu'ils peuvent faire 5 à 6 millions d'unités, et comme on a quand même la crise qui a commencé depuis un moment, ils ont dû s'assurer d'avoir des redondances possibles, etc., j'imagine qu'on ne va pas passer de 5 à 6 millions d'unités à 300 000.
Non. Mais par contre, passer de 5 à 6 millions d'unités à 4 ou 5, par exemple, ça, c'est une possibilité. Mais il y a effectivement toutes les grosses entreprises de ce point de vue-là, ils vont avoir différents fournisseurs pour pouvoir dire, voilà, bah, tu ne peux pas avoir ton SSD par tel fournisseur, tu vas passer par un autre. Et avoir peut-être même un deuxième plan de secours derrière ça. Donc ça, c'est obligé. Hein.
Sachant que pour Sony, leur SSD est tellement spécifique, tellement particulier, il n'est pas impossible que ça soit un maillon faible pour la fabrication de leur console. J'imagine qu'il y a aujourd'hui peu de fabricants qui peuvent faire ce type de SSD spécifiquement. Pour les autres types de composants, on peut toujours retomber sur autre chose. Mais là, ça risque d'être un petit peu plus spécifique.
Ça me fait penser à un exemple, en fait, tu vois, je suis sûr, enfin, c'est inconcevable pour moi qu'ils n'aient pas plusieurs fournisseurs capables de faire ces SSD. La raison pour laquelle je pense à ça, c'est il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 7-8 ans, il y avait eu des inondations en Thaïlande bloqué en fait la production de disques durs, c'est des disques durs à l'époque, et qui avait impacté toute l'industrie du PC parce que un des plus gros fournisseurs n'était plus à même de produire des disques. Et finalement, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Des inondations en Thaïlande, par exemple, Et c'est pour ça que toutes les grosses compagnies vont avoir plusieurs fournisseurs. C'est sûr. Donc, qui ensuite est probablement dans différents pays, avec différentes usines, etc. Voilà. Bon. Donc, à voir comment Sony va se débrouiller. Mais tu vois, passer de 5 à 6 millions à 1 million, non, ça, je n'y crois pas.
Tu n'y crois pas, ok. Bon, donc ça veut dire qu'au pire, ce qui se passera, c'est qu'il faudra aller se battre dans les Darty et les Fnac. Il y aura des sortes de Battle Royale pour savoir qui obtiendra la console, la Xbox ou la PlayStation. Mais il y en aura quand même. Ce n'est pas un Battle Royale où il n'y en a qu'une seule à la fin sur les 100 entrants. C'est un Battle Royale où il y en a, on va dire, 40 de disponibles pour les 100 entrants. Donc, on a quand même, si on a fait des pompes, on a des chances de pouvoir survivre. Donc, la leçon à retenir de tout ça, c'est commencer à faire des pompes maintenant, en fait, pour être sûr d'avoir votre console.
On s'est bien entraîné avec le PQ et la farine.
Non, mais surtout, il faut s'arranger. Plus que les pompes, etc., l'entraînement physique, c'est important. Mais il faut arriver aussi à déterminer d'un coup d'œil qui sont les plus petits, les plus faibles, hein, qu'on puisse les éjecter directement. Il faut toujours privilégier, s'attaquer aux plus faibles. Ça marche mieux.
Les cibles.
Et pas à la grosse baraque de 2m20 qui fait 130 kg de muscles. Ouais. Lui, il a sa console.
Très, ok, ouais. Lui on le laisse tranquille, on le laisse marcher jusqu'au... Faut jouer à Warzone et puis prendre ses stratégies de ça, à Call of Duty Warzone, et je pense que ça se passera bien. Bon, il y a quand même une autre chose à mentionner, c'est que il y a une autre possibilité évoquée par l'article de Bloomberg, c'est que Sony veut absolument rester sur l'optique de sortir la console en cette fin d'année, à moins que Microsoft ne décide de décaler la sortie à, de quelques mois. Là, c'est la porte qu'ils se laissent ouverte pour eux aussi décaler la sortie, ce qui est tout à fait compréhensible, évidemment. Mais en l'état actuel des choses, en fait, Sony ne veut pas sortir plus tard que Microsoft. Et on imagine que Microsoft ne veut pas sortir plus tard que Sony, parce que s'il y en a un qui sort après l'autre, eh ben, il a forcément un désavantage. Ce qui est envisageable, c'est qu'il se, au bout d'un moment, si les choses restent très compliquées ou se compliquent encore plus, Monsieur Sony appelle Monsieur Microsoft et ils se parlent et ils se disent « Bon, écoute, là, c'est trop le bordel, on va au casse-pipe tous les deux, décalons de 6 mois, ça sera plus simple, on pourra vendre plein de nos consoles encore aujourd'hui et plein de nos jeux et les joueurs pourront jouer à leur backlog qui est bien fourni, donc on va décaler de 6 mois tous ensemble et ça va bien se passer. Mi-2021, il y aura le vaccin, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, peut-être que c'est une possibilité, mais en l'état actuel des choses, c'est pas ce qui est prévu.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je vous propose qu'on avance et qu'on parle des jeux auxquels on a joué. Avant ça, je vais quand même vous faire un petit topo sur le Patreon et vous inciter, vous encourager à vous diriger sur patreon.com/rdvjeux. Vous savez que si vous pouvez écouter cette émission, c'est parce qu'il y a des gens qui la soutiennent, des gens qui donnent des sous-sous, des vrais sous à l'émission. Et c'est grâce à eux que cette émission existe pour vous aussi. Et donc, si vous l'appréciez, si vous vous dites que c'est sympathique, si vous aimez bien Dany, si vous ne l'aimez pas, aucun souci. Et là, je pense que j'aliène une partie de l'audience, bien sûr. Mais si vous l'aimez bien, peut-être que vous pourriez vous dire, j'aimerais bien... Je dis ça en même temps, Dany, je ne le paye pas. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Peut-être que si vous aimez bien... Si vous aimez bien l'émission tout court, vous pourriez soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. C'est vraiment très facile, très rapide. Et c'est grâce à ça que l'émission existe. Comme à la bonne vieille époque des magazines qu'on achetait dans les kiosques, on peut payer pour soutenir ces productions. Si jamais vous appréciez ce qu'on fait, et ben c'est peut-être une chose à prendre en compte. Donc je vous remercie très très chaleureusement par avance. Et si vous décidez, si vous le faites déjà, vous avez, vous le savez, mes bisous qui vous arrivent directement au colis privé. Oui, j'ajoute aussi d'ailleurs qu'il y a une newsletter qui est envoyée aux abonnés du Rendez-vous Jeu, une newsletter hebdomadaire qu'on a lancée il y a quelques semaines de ça, et il y a plein d'autres bonus aussi, donc allez jeter un petit coup d'œil, le lien, encore une fois, est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvjeux. De quoi voulait-on parler des jeux auxquels on est en train de jouer? Alors moi, j'ai passé pas mal de temps sur Final Fantasy VII Remake. Je ne sais pas si vous avez d'autres jeux que vous voudriez évoquer. Il n'y a pas eu d'énormes sorties depuis le dernier épisode.
Persona 5 Royal, dis donc.
Oh, bah, Persona 5 Royal, c'est Persona 5, on le connaît un peu quand même. Tu t'es replongé dedans?
Je suis retombé dedans, ouais, j'avoue. moment.
T'avais fini l'original?
Oui, oui, je l'avais adoré. Bon, c'est... Disons que si quelqu'un n'a pas joué à Persona 5, c'est super. Pour quelqu'un qui a joué à Persona 5, il y a pas mal de choses en plus, mais ça ne justifie pas les 80 heures que tu vas engloutir dedans, je pense. Mais c'est la version ultime de Persona 5, disons. C'est comme ça que je le... Tu vois, c'est la version ultime, et quelqu'un qui prendrait le jeu aujourd'hui, je pense, si on aime le genre, prendrait beaucoup de plaisir à jouer. Il reste superbe.
Moi, j'avais joué à l'original et j'avais un petit peu décroché quand même au bout de, j'allais dire, de quelques heures. J'ai dû jouer quand même 10-15 heures, hein, c'est pas rien, mais j'avais quand même un petit peu décroché. Ça change pas la nature du jeu, c'est pas le genre de mise à jour où il y a des choses qui sont simplifiées, des choses qui sont plus rapides. C'est quand même un jeu qui prend son temps, on va dire.
Oui, c'est un jeu qui prend son temps, et en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est 80% de simulateurs de vie de lycéens japonais et 20% de JRPG avec des donjons et plein de monstres à tuer.
Ouais, c'est en fait, moi, j'avais beaucoup aimé Persona 4 que j'avais fait en version Golden sur PlayStation Vita, et je pensais que j'adorerais le 5, et ce qui m'a rebuté, étrangement, c'était la partie simulateur de vie sociale, parce que c'est trop long, c'est trop lent, c'est trop de dialogue, enfin pour moi en tout cas. Donc c'est plus même que dans un jeu comme Fire Emblem Three Houses, et pourtant il y en a quand même beaucoup dans Fire Emblem.
Ah
déjà,
oui, c'est
donc,
beaucoup plus, c'est un autre niveau là. Hein.
Ouais. Complètement. J'adore la partie, c'est le Japon, mais
c'est fantastique. Hein. Y a des nouveaux quartiers donc dans le Royal, et ouais, t'as l'impression d'y être. Hein. C'est un moment nostalgie, visite, vacances inégalable.
Bon, je pense quand même que les gens qui sont intéressés par le jeu savent qu'ils sont intéressés par le jeu, donc on va pas passer trop de temps dessus non plus. Y a d'autres choses auxquelles vous êtes en train de jouer, Escarina? C'était toujours sur Animal Crossing?
Annual Crossing, FF7 Remake aussi.
Ah, on va pouvoir en parler un peu plus, très bien.
On va pouvoir en parler. Mais Animal Crossing, est-ce que tu l'as acheté, Patrick? Est-ce que tu y as joué, ou est-ce que c'est juste Escarina?
Non, moi je suis resté hermétique à Animal Crossing. J'ai à un moment beaucoup hésité, mais je sais qu'il fait partie de ces jeux que je vais acheter, auxquels je vais jouer 25 minutes, et je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et le jeter de rage et peut-être endommager ma Switch. Donc non, finalement, je ne l'ai pas... C'est vraiment pas pour moi, je pense.
Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Escarina, justement? Est-ce que... Vends-le-moi, en fait. Moi, j'ai vu ma copine y jouer et je ne comprends pas. Je suis comme Patrick. Hein.
Alors, écoute, donc, justement, je n'ai pas le premier à venir me voir en me disant « Vends-le-moi ». Et à chaque fois, j'ai fait la petite pub pour Patrick. J'ai dit « On a fait un podcast de 20 minutes là-dessus ». Et ça n'a pas loupé. À chaque fois, les gens ont acheté le jeu derrière. Donc, je vais te le refaire en 3 minutes. Mais en gros, c'est un simulateur, j'allais dire, de chillitude. C'est le jeu chill par excellence. Tout est mignon dans Animal Crossing. Tu prends ton temps avec tout. Tu démarres sur une île déserte, en fait, et en gros, tu dois, entre guillemets, recoloniser l'île, la rendre sexy pour faire venir plein d'habitants sur ton île. Et donc, pour ce faire, tu commences, t'as rien, t'as juste une petite tente. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas pêcher des poissons, tu vas capturer des insectes, tu vas faire prospérer ton île, tu vas agrandir ta maison, et puis les nouveaux voisins vont arriver, et il y a plein d'autres choses merveilleuses. C'est une petite bulle de douceur où tous les jours, tu vas faire tes petits trucs dans ton île qui vont faire que tous les jours, ta vie va être de plus en plus agréable à vivre dans ce jeu. C'est très difficile à décrire. Animal Crossing, c'est un simulateur de vie kawaii c'est une parenthèse des vacances au milieu de tous les autres jeux vidéo que tu peux faire. C'est très particulier. Après, je suis pas du tout... je suis très, très subjective sur le sujet, puisque... je suis pas objective du tout, pardon, parce que c'est un jeu que j'adore. Donc, mais je t'invite à écouter ce court podcast qu'on a fait.
Ouais. Mais tu vois, quand t'en parles et sans te connaître, j'ai l'impression que t'as des étoiles dans les yeux quand tu parles de jeu.
Mais c'est ça. Mais franchement, c'est un jeu qui sert à rien, je pense qu'il faut l'admettre, à part à passer un bon moment entre potes. Que le gros avantage du jeu aussi, c'est de pouvoir partager tes aventures. Qu'est-ce que tu fais sur ton île? Comment tu décores ta maison? C'est vraiment un mélange entre les Sims et Stardew Valley. Donc si tu n'aimes ni l'un ni l'autre, c'est pas fait pour toi. Par contre, si ça te parle, éventuellement, ça peut te plaire.
Moi, je connais.
Pas de gros démon à tuer.
C'est ça, je connais un petit peu Dany. je crois que c'est pas vraiment sa cave, mais bon.
Même les animaux, tu les tues pas, tu les captures et puis après, tu vas les mettre dans un beau musée, tu vois. Donc c'est
ouais, non, ça, les animaux, je veux pas les tuer, je les aime beaucoup, mais c'est très bien. Oui, j'ai vu le musée, c'est très mignon. Et puis surtout, tu peux avoir des autres dinosaures, etc. Ça m'a parlé tout de suite, tu vois.
Tu peux recréer, j'ai côté, vu des gens recréer un Jurassic Park sur leur île, c'était très marrant. Enfin voilà, c'est un jeu plein d'anecdotes. Et de voilà, c'est pour s'amuser mais de la façon la plus simple possible, c'est de l'amusement, du bon temps, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi.
Bon, bah écoutez, Animal Crossing, je pense que Dany n'a pas été convaincu, mais c'était la personne qui réussira à convaincre Dany de jouer à Animal Crossing, je crois qu'elle méritera un prix Nobel, parce que ça sera, à mon avis, c'est pas tout à fait son genre de jeu. Mais par contre, un jeu qui lui parle beaucoup, alors c'est aussi un jeu dont on a déjà parlé, c'est Final Fantasy VII Remake, auquel j'ai moi aussi pu passer, sur lequel j'ai pu passer un peu de temps. J'ai joué, on va dire, depuis la dernière fois, en tout, j'ai joué une vingtaine d'heures, donc il est sorti il y a 15 jours, donc ça fait presque un petit peu plus d'une heure par jour, sachant que, c'est mon boulot, hein, en partie, de jouer aux jeux vidéo, mais bon, sachant que, voilà, c'est compliqué avec le petit et tout ça, j'ai quand même réussi à passer une vingtaine d'heures dessus, je dois être à la moitié et je suis encore assez émerveillé. On en a parlé la dernière fois, donc les auditeurs savent un petit peu à quoi s'attendre, mais je veux quand même en dire quelques mots. Pour moi, c'est un jeu qui repose sur trois piliers. D'une part, la nostalgie, ça joue forcément à la fois dans les environnements, la musique, enfin ça joue forcément. Les graphismes, il y a quand même un soin du détail dans certains graphismes. C'est marrant parce que en fait, mon explication du jeu, c'est que c'est un jeu qui est un jeu qui a des ambitions de jeu double A, donc relativement modeste, on a l'habitude de ce type de jeu dans les productions japonaises, mais qui a une exécution de triple A. C'est l'exécution est magistrale, et notamment on le voit dans les modèles des personnages principaux essentiellement, mais aussi de certains éléments des décors. Certains sont assez minables, et certaines textures, on a l'impression qu'elles sont encore en train de se charger, alors qu'en fait non, elles sont déjà chargées, c'est bien ça la texture. Mais par exemple, le visage de Cloud, il est tellement beau, Cloud, c'est incroyable, quoi. Il a des yeux dans lesquels on se noirait, une peau complètement, une peau de bébé magnifique. Enfin bon, Cloud est d'une beauté incroyable. L'exécution est excellente. Et le troisième pilier, c'est les combats qui sont... Je continue à penser, c'était ma première estimation, mais ils sont absolument... une réussite, le système de combat, vraiment. J'ai hâte de tomber dans le prochain combat à chaque fois. Et c'est le gros, gros, gros plaisir du jeu, à mon sens. Et, comment dire, il faut quand même parler de certains petits bémols qui n'enlèvent pas au jeu ses qualités pour moi, qui n'enlèvent pas mon amour pour ce jeu. Mais il y a quand même... Alors, d'une part, il y a certains moments qui sont très, très what the fuck. On pense à Wall Market, qui est en gros la partie du jeu qui ressemble... Pour ceux qui connaissent le Tokyo encore, c'est Kabukicho ou Kamurocho dans Yakuza. En gros, le quartier chaud de Tokyo qui existe dans des versions plus ou moins fidèles dans de nombreux jeux japonais. Mais c'est le quartier chaud avec les bars à hôtesse, les trucs comme ça. Et c'est très, très japonais. Et si on ne connaît pas, on a vraiment des trucs qu'on ne comprend pas. Et même en connaissant, moi, il y a des dialogues, des situations où je me suis dit, mais de quoi sont-ils en train de parler? Parce qu'ils font toujours, à la fois, ils disent des gros mots, ils disent des insultes dans le jeu, mais en même temps, tout est en insinuation et en choses qui sont dites avec un clin d'œil, tu vas aller voir les travaux, tu vas aller faire un massage. Ils disent que c'est un bon massage qui va te ravigorer. Alors que bon, voilà. Mais ça, c'est genre une insinuation. Mais il y a aussi des moments où tu comprends juste pas de quoi ils parlent, tellement ils essayent d'insinuer, de ne pas dire les choses. Et il y a des situations complètement abracadabrantesque auquel on ne comprend rien. Bref, ça c'est la partie Wall Market, mais ça se retrouve aussi de temps en temps dans certains dialogues qui sont pas superbement traduits, et je me souviens que j'ai pas fait l'original depuis longtemps, mais certains disent que l'original était très mal traduit, et donc qu'il y a des dialogues qui n'ont aucun sens. Eh ben, si c'est encore plus problématique que sur cette version, qui est dans l'ensemble très bien traduite, mais il y a quand même des moments où on ne comprend pas ce qui se passe et ce dont il parle, c'est vraiment effectivement un gros problème dans le jeu original. Donc il y a ça d'une part, et puis il y a aussi tous les stéréotypes qui, là encore, sont très liés au Japon. Il y a Barrett, qui est l'archétype du noir tel qu'il est vu au Japon, et tel qu'il était peut-être...
Mais il est horrible, Barrett, en plus. Il t'aboie dessus tout le temps, il est antipathique, il est...
Non, mais c'est ça.
Il est monstrueux. Mais dans mes souvenirs, c'était pas ça, hein.
Bah, écoute...
Moi, je me rappelle quand même d'un personnage un peu exubérant qui remuait dans tous les sens dans le jeu original, mais c'est vrai que le fait de lui mettre une voix, et puis surtout un physique... Du coup, ça amplifie un peu le truc.
Ouais. C'est, à mon avis, un manque de subtilité dû à ce qu'ils ont au Japon, mais on retrouve ça ailleurs aussi. Il y a Wedge, dont certains... Moi, ça me gêne moins parce que je suis svelte et beau, mais... je plaisante. Mais il y a certains qui se sont plaints, par exemple, du fait que Wedge ne soit qu'un gros. C'est l'un des personnages du truc, et son trait de caractère, c'est qu'il est gros. Il parle tout le temps du fait qu'il veut manger, il est tout le temps affamé, il dit qu'il n'est pas en forme parce qu'il n'a pas mangé. Enfin... Et toutes les blagues sur lui, c'est parce qu'il a un gros ventre, je comprends effectivement, mais c'est un archétype qui est très, très fréquent dans la culture japonaise. Et encore une fois, il ne s'embarrasse pas forcément de subtilité. Il y a aussi un autre truc dont j'ai parlé ici et là. Certains m'ont dit « Oh, mais non, t'exagères, machin ». C'est le physique de Tifa, qui même si elle a eu sa réduction mammaire décidée par le comité éthique de Square Enix, ce qui est véridique, hein, il y a vraiment eu un petit changement de physique de Tifa. Franchement, les modèles étant tellement magnifiques et elle étant tellement... elle n'est pas dénudée, mais enfin, c'est une nana qui est complètement timide, tranquille, réservée. Et même si c'est une combattante féroce et qu'elle fait des arts martiaux, machin, dans le jeu et dans le personnage, elle est timide et elle s'habille. Enfin, on a l'impression qu'elle va en boîte à Miami pour une soirée piscine, quoi. C'est distractif. Quand on joue au jeu, moi j'ai trouvé ça frappant.
Moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour le coup elle a les mêmes fringues que dans le jeu original.
Ah mais complètement, mais tous ces problèmes sont au moins en partie dus à ce qu'était le jeu original à l'époque, et qu'à l'époque on s'est embarrassé un petit peu moins de ces problèmes-là. Mais il y a aussi un aspect du truc, enfin, je ne sais pas si vous avez vu comment court Aerith. Mais Aerith, elle court, elle a les bras en l'air, elle fait « Oh là 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 !»
C'est le cliché.
Pardon ?
Ouais, c'est très très cliché quand même.
C'est le cliché. Mais ben, ça, c'est pas propre à Final Fantasy VII Remake, hein, malheureusement. Comme tu
non.
dis, c'est... Il y a quand même beaucoup de jeux japonais qui sont comme ça.
C'est ça, c'est ça. Et donc, bon, c'est vraiment la fille aux fleurs, tu vois, qui est toute douce. Et c'est marrant parce qu'ils disent, tous les personnages disent, et en particulier les personnages féminins, je pense qu'ils sont tout à fait conscients de ces problèmes, et ils disent à plusieurs moments « Ah, je ne suis pas une princesse que tu dois venir sauver, machin. » Sauf que toutes les situations, c'est des princesses que tu dois aller sauver. Donc, et toi, tu es Cloud, le beau, le fort, dont devant quel les nanas se pâment, et même Patrick se pâme, parce que c'est vrai qu'il est très très beau, mais Tifa, Aerith et même Jessie, qui avait quasiment rien dans le jeu original, eh ben elle est là, elle lui fait du rentre dedans.
Putain, mais c'est du harcèlement, quoi. Enfin, le perso-là, il me sort par les... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, elle est flippante, en fait.
Ouais. Bon, à la limite, c'est un personnage. Disons que si c'était un personnage comme ça, isolé, elle fait du rentre-dedans, elle est un petit peu « Ah, tu vas venir me montrer ta grosse épée ce soir ?» Bon, ok, d'accord. Mais ça s'inscrit dans un ensemble de tendances du jeu qui, au final, moi, je trouve, sont un petit peu gênantes. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas énormément le jeu et que, pour le moment, je pense que c'est mon jeu de l'année. Et pourtant, il y a de la matière, mais je crois que c'est mon jeu de l'année. Il est vraiment, vraiment excellent. J'ai beaucoup parlé. Du coup, Escarina, toi, tes impressions sur ces aspects, puisque tu es la caution féminine de cet épisode, tu me disais que oui, tu ressentais un petit peu ça aussi quand même.
Oui, oui. Et ben après... Le truc, c'est que j'essaye de me replacer dans le contexte du jeu de base. Alors, c'est sûr que d'un point de vue fanservice, le jeu, il est très réussi. Que ce soit les graphismes, après, tout ce qui est chara-design, etc., c'est très repris de ce qu'ils avaient fait pour Advent Children, donc ça s'inscrit dans une certaine continuité. Mais, enfin, graphiquement, c'est superbe. Moi, j'ai quand même les cinématiques qui me manquent. Je trouvais que c'était une force des titres des Final Fantasy, c'était d'avoir ces passages en cinématique où t'en prends plein la vue pendant... c'est très court en général, ça dure entre 1 et 3 minutes. Et là, il n'y en a pas dans celui-là, ça me manque un petit
c'est
peu.
C'est in-engine, quoi.
Mais ouais, le jeu est tellement beau de base, à part effectivement, il y a quelques textures un peu bizarres. Bon. Les musiques aussi, les reprises, la bande en général, c'est pas juste une bête reprise, ils ont vraiment remasterisé les morceaux, ils l'ont très bien fait. Il y a certains morceaux qui changent vraiment par rapport aux originaux, mais t'arrives quand même à les reconnaître. Enfin, il y a vraiment eu un très beau travail de fait là-dessus. Le système de combat, il est plutôt réussi. Alors, je suis un peu dérangée, moi, parce que des fois, j'ai l'impression que mes coéquipiers font rien pendant les combats, que je suis obligée de les reprendre en main pour leur faire faire des trucs un peu intelligents.
Donc, ils sont très passifs, c'est sûr, oui. Ils sont très passifs.
Mais à la limite, je trouve ça moins frustrant que dans des systèmes de combat similaires où au contraire, ils font n'importe quoi, t'as plus de MP au bout de 30 secondes de combat, ça m'insupporte. Donc au moins, c'est pas comme ça. Dans l'ensemble, ouais, le jeu est très bien réussi, super mise en scène. Alors après, il t'étire le truc à l'infini parce que effectivement, j'ai fait comme toi, j'en suis à une vingtaine d'heures, là j'en suis au Wall Market, j'ai bien avancé, je dois être pas loin de la fin. Là, sur une vingtaine d'heures de jeu, par rapport au jeu original, ça correspond peut-être à, je sais pas, peut-être 4 ou 5 heures de jeu par rapport au jeu original. Si je dis pas de bêtises,
c'est ça, ouais.
Je me rappelle assez mal.
Un peu plus.
Donc, ouais. Ils te prennent le truc et ils te l'étirent à l'infini en te rajoutant des side quests, etc. Mais je trouve quand même que c'est bien réussi, c'est dans l'air du temps, c'est cohérent avec les derniers Final Fantasy. Alors oui, c'est très couloir. En même temps, on est enfermé dans Midgar pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de monde ouvert ou quoi que ce soit. En tout cas, pas pour l'instant. Je ne sais pas s'ils le feront pour la suite. Quand je vois ce qu'ils ont fait pour FF15, à la limite, je me dis que c'est pas plus mal que ce soit un peu couloir dans le set. Donc, moi, je le trouve très réussi. Quand tu dis que c'est, pour l'instant, c'est ton jeu préféré de 2020, je le comprends. Ce sera probablement le mien aussi. J'attends de voir quand même Cyberpunk 2077 en fin d'année.
Ah, on dit mais... pour le moment, oui.
Pour le moment. Mais ouais, c'est très réussi. Je trouve que la dose de fanservice est bonne. Après, effectivement, le fait de mettre des voix et des physiques réalistes, on va dire, sur ces personnages, fait que ça peut créer une certaine étrangeté par moment. On en parlait tout à l'heure de Barrett. Oui, Aerys, elle fait cruche, mais en même temps, quand tu regardes comment elle est dans le jeu original, c'est comme ça que tu aurais pu t'imaginer le personnage.
C'est donc, sûr. Mais je crois que... Il y a un aspect quand même, c'est que c'est le cas pour les physiques, mais quand c'est 4 polygones, on évoque la chose, on comprend que ça ne soit pas aussi, aussi profondément travaillé. Mais il y a le, par exemple, dans Wall Market, le sujet, en fait, c'est de l'esclavage sexuel. Elles sont, oui. Littéralement, c'est un baron de la pègre qui enlève ou qui se fait ramener des femmes pour les... Alors, est-ce que c'est violé plus ou moins, c'est impliqué, mais c'est traité avec tellement de légèreté, c'est ce baron qui rigole, qui est encore une fois un personnage très japonais, le Don Corneo, mais le sujet est hyper grave. Et, c'est, et, ouais. Et on le regarde et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ?
C'est...
Alors, c'est pas dit explicitement, on pourrait dire non, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, donc c'est une petite sorte de porte de sortie, mais moi, ça m'a un peu laissé pantois, quoi. Pardon, vas-y.
Eh oui, non, mais en fait, le truc, c'est que quand tu le remets dans le contexte de la sortie du jeu, donc il y a plus de 20 ans maintenant, à l'époque, c'était, enfin, dans mes souvenirs, c'était traité à peu près pareil, peut-être avec une dose d'humour un peu bizarre encore en plus par au-dessus, mais aujourd'hui, bah oui, il y a des sujets, enfin, il y a des... Les façons dont on colle certains caractères sur des personnages féminins, ça passe beaucoup plus difficilement, la façon dont on aborde certains sujets comme celui-là, ça peut sembler vraiment awkward, donc il y a cette espèce de... Si tu veux, le compromis à trouver entre le fanservice pour respecter le matériau de base et puis le transposer dans... À 20 ans plus tard, les mentalités ont évolué. C'est pas évident, c'est pas un exercice facile. Ouais. Bon, malgré tout, ça reste léger. Je trouve que ça passe plutôt bien.
Oui, c'est ça. Moi, j'en ai beaucoup parlé à l'instant. Je pense qu'il faut le signaler juste pour en être conscient. Mais ça remet pas, c'est pas au niveau où ça remet pour moi en cause le plaisir que je prends à jouer au jeu. Je suis interloqué, on va dire. Mais voilà. Dany, toi, ouais. tu prends autant de plaisir qu'à l'époque ?
Je m'en souviens plus en fait du jeu à l'époque. J'avais adoré, mais c'est il y a tellement longtemps, c'est plus du tout frais. Mais moi, en fait, il y a plusieurs choses effectivement, donc on a déjà évoqué qui me dérange un peu. C'est, je trouve, c'est dommage en fait qu'ils aient pas utilisé l'opportunité de faire le remake pour, premièrement, justement, résoudre ces problèmes de, potentiellement de culture japonaise ou du fait que c'était un vieux jeu, etc., qui rend bah, ces problèmes un peu légers, ou l'hypersexualisation de certains personnages féminins qu'on voit d'ailleurs très souvent en fait dans les jeux Final Fantasy. Hein, Final Fantasy XV avait exactement moi ça me dérange. On a déjà parlé d'ailleurs dans le rendez-vous jeu, il y a, quand il est sorti il y a 2-3 ans,
ça me dérange personnellement. Sydney qui était un petit peu dans la tenue de Tifa aujourd'hui, même pire.
C'est ça. Alors c'est beaucoup beaucoup
mieux. La garagiste. Hein,
c'est Tifa ça. Est beaucoup mieux. La garagiste, c'est ça. Moi c'est à ce moment, j'ai vu ça, j'ai arrêté de jouer au jeu, qui est excellent, hein, mais moi c'est vraiment c'est pas pour moi quoi. C'est non. Et l'autre opportunité, je trouve, qui est un peu dommage, je me souviens plus comment étaient les dialogues à l'époque, mais l'écriture, les personnages et tout, c'est un peu laborieux, c'est pas très intéressant, ça manque un peu de pêche et de dynamisme. Il y a beaucoup de dialogues que tu peux pas passer sans appuyer sur les boutons ou attendre que le personnage ait terminé sa phrase. Je trouve que ça casse un peu le rythme du jeu. Et la dernière chose, mais qui est finalement assez courante, à mon avis, que je reprocherais au jeu, c'est dans beaucoup de jeux un peu limite open world, etc., c'est les quêtes qui sont pas super excitantes. Alors t'es Super Cloud, t'es le soldat de la mort qui se bat contre Shinra et les forces du mal et machin et tout. Mais par contre, quand la petite fille te demande d'aller chercher des trois chats, tu vas l'aider, quoi. Oui, c'est bien, hein, c'est mignon et tout, mais c'est quand même du méga filler pour allonger la durée de vie d'un jeu qui apporte rien au scénario ou à la profondeur des personnages, je trouve. C'est juste de dire, voilà, c'est une quête. Ok, bon, il y a les mêmes choses dans World of Warcraft, hein, mais je trouve que raccourcir le jeu pour le rendre plus percutant et impactant aurait été fantastique, d'autant plus que graphiquement c'est top, le gameplay très agréable, et je trouve que c'est un bon remake par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, une remise au goût du jour, mais qu'ils auraient dû à mon avis pousser un peu plus loin.
Disons que s'ils avaient fait 20 heures de jeu, ça aurait pas fait un jeu moins bon. Peut-être que les gens s'en seraient plaints. Ils auraient dû le vendre à 20 euros de moins ou ce genre de choses. On rentre dans d'autres considérations. Au final, je trouve que des quêtes avec des va chercher les chats, il y en a très très peu. Et les autres, c'est souvent du combat. Alors même si on s'en fout parce que c'est oh mon Dieu, mon usine a été envahie par des rats démons. C'est quand même l'occasion de jouer avec ce système de combat qui est très réussi. Donc moi, ça me dérange moins. Mais je comprends effectivement ce que tu veux dire.
Et j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le système d'amélioration des armes, l'espèce de sphérier, c'est un sphérier très simplifié, mais il y a des petits ajouts comme ça qui sont plutôt, plutôt bienvenus.
Oui, tout à fait.
Et le système de jeu reste toujours évidemment très bien, très intéressant, les matériaux, les machins, tout le gameplay en fait, qui tourne autour du combat est super.
On est d'accord. Ok, il y a d'autres jeux auxquels vous avez joué que vous voulez évoquer ou on avance vers les dernières news ?
Moi, avec je sais pas combien d'années de retard, je suis en train de faire Life is Strange 2. J'avais fait le 1 à sa sortie, j'avais passé le 2 et il est vraiment chouette. Je sais pas si vous y aviez joué.
Non, pas du tout.
Non plus. J'ai juste fait le premier chapitre du premier. J'avais bien aimé. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté à l'époque.
Ouais,
j'étais
exactement
passé sur autre chose. Est-ce que ça vaut le coup que je me remette à Life is Strange 1 ? Et ensuite pour jouer aux deux, est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Pour moi, tu vois, je le comparais par exemple à Walking Dead saison 1 et 2 qui étaient incroyables. Si c'est du même niveau, effectivement je reconsidérerais la chose.
Non, moi je garde quand même une préférence pour The Walking Dead, mais ça reste, ça reste des bons jeux narratifs. Je pense que si t'aimes vraiment bien ce genre là ça vaut le coup de les faire. Maintenant, te mets pas en stress, fais-le un jour quand tu auras le temps.
Oui, c'est ça. Ouais.
Je suis pas en train de te dire que tu passes à côté de ta vie de joueur si tu le fais.
Bon, c'est noté. On va donc avancer avec les dernières infos, les plus petites infos. D'abord, la confirmation que les confinés se tournent vers le jeu vidéo. Les estimations aux États-Unis, en tout cas, ce n'est pas des estimations, c'est des chiffres. Il y a 100% d'augmentation des ventes de Nintendo Switch par rapport en mars de l'année dernière. Alors évidemment, il y a Animal Crossing qui joue, mais il n'empêche, ils en vendent deux fois plus que l'année dernière, c'est notable. Et et 25% d'augmentation des ventes pour la PlayStation 4 et la Xbox One, alors que c'est quand même des consoles qui ont 7 ans aujourd'hui et vendent 25% de plus, c'est quand même notable. Il y a également une augmentation de 11% en général sur le chiffre d'affaires du jeu vidéo dans son ensemble dans le monde, sur les consoles spécifiquement, on parlait uniquement des États-Unis. Donc 11% d'augmentation dans le monde et 15% d'augmentation spécifiquement pour le jeu mobile qui représente plus de la moitié des revenus générés. Donc bravo les jeux mobiles, on va dire. On va dire ça comme ça. La dernière update de Mario Maker 2 inclut le World Maker que je trouve absolument magnifique, c'est-à-dire que on peut désormais partager, elle est disponible depuis hier, on peut désormais partager des mondes entiers et pas juste, donc avec la carte et tout, et pas juste niveau par niveau. Ça m'a presque fait acheter Mario Maker 2 jusqu'à ce que je me rappelle que les niveaux de toute façon sont que des trucs absolument impossibles, mais l'idée de partager un monde entier, donc un jeu plus qu'un niveau, c'est vraiment attrayant. Il y a aussi un problème avec les comptes Nintendo Switch. Il y a eu des hacks pour les comptes qui étaient liés à des comptes PayPal. On n'est pas exactement très sûr de ce qui s'est passé, mais Nintendo est en train d'investiguer. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux activer l'authentification double facteur, surtout si vous avez un compte PayPal associé. Donc voilà, à noter. Encore quelques news, le GeForce Now a perdu les jeux Xbox et les jeux Warner Brothers, donc ça sent de plus en plus mauvais pour le GeForce Now. Il y a quand même des jeux qui restent, mais ça en fait quand même beaucoup en moins. C'est pas les premiers studios qui retirent leurs jeux du GeForce Now. Et enfin, Fortnite est disponible directement sur le Play Store. On se souvient que Epic avait mis Fortnite disponible sur Android en sideloadant, mais il s'est trouvé que c'était finalement trop compliqué pour les utilisateurs. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont installé Fortnite par ce biais, mais maintenant ils attaquent les utilisateurs qui ne veulent pas faire ces manipulations un peu compliquées, et donc ils sont aussi disponibles sur le Play Store, ce qui veut dire qu'ils sont sujets à la taxe Google de 30%, qui est la même que sur tous les autres Play Store, que évidemment Epic aimerait éviter, mais ils sont sur le store. Alors ça fait beaucoup de choses, on va continuer juste après avec d'autres sujets comme World of Warcraft et d'autres petites news, mais sur ces sujets déjà de vente de consoles de Nintendo et de GeForce Now, est-ce que ça vous inspire des choses? Peut-être Danny, dont j'entends qu'il bouge son micro.
Ça s'entend, mince alors. écoute, moi, le truc qui m'a marqué le plus, c'était finalement Mario Maker 2, où comme toi, j'étais « Oh, c'est génial !» et tout. Et effectivement, comme toi aussi, je me suis rappelé que je pense que je préférais voir Mario Maker 2 sur YouTube ou en stream plus qu'autre chose, parce que c'est assez rigolo à regarder. Mais alors, par contre, à jouer, non merci.
Ouais, malheureusement, les niveaux sont quand même généralement, enfin, de mon impression, si c'est pas le cas, venez nous le dire dans les commentaires. S'il y a beaucoup de niveaux intéressants plus que des niveaux hyper durs, je pourrais être convaincu d'acheter Mario Maker 2.
Mais c'est même pas hyper dur, quoi. Tu regardes les vidéos sur YouTube, tu dis, mais jamais j'atteindrai ce niveau-là de ma vie, quoi. C'est pas possible.
Bon, en même temps, celles qui sont sur YouTube, c'est surtout les trucs super durs. Peut-être qu'il y en a plein qui sont normaux et. En même temps, j'ai même pas fini. Vas-y,
ça doit être fun pour jouer avec tes enfants ou quoi, si tu vois, il y en a un qui fait des mondes ou des niveaux pour les autres et puis que les autres essayent de les jouer, ça doit être sympa, ou même entre potes. Sinon, j'ai l'impression que c'est un jeu qui se regarde plus sur YouTube qu'il ne se joue vraiment, quoi.
Je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, avec mon fils, ça va être Mario Maker 2 World. Ouais, un truc qui t'a plus marqué qu'un autre, SK, dans tout ça?
Effectivement, moi j'ai entendu parler de cette faille là sur Twitch, du coup j'ai activé la double authentification et j'ai délié mon compte PayPal immédiatement. Après, c'est toujours un peu bizarre parce que tu sais, c'est le genre de choses sur lesquelles Nintendo ne communique pas ou très peu, donc on l'a appris par un biais un peu étrange. C'est toujours ce moment où tu as l'info et tu sais pas trop si est-ce que c'est un hoax ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, et en fait il y avait vraiment quelque chose. Si vous avez un compte, vous avez probablement un compte Nintendo, si vous avez une Switch, pensez à bien activer la double authentification et à délier vos moyens de paiement de votre compte si vous les avez liés, par prudence.
Ouais, ça leur a pris genre 24 ou 48 heures pour dire qu'ils étaient en train d'investiguer la chose et pour encourager les gens à activer la double authentification. Je sais qu'on a tendance à dire « Oh, mais Nintendo, pourquoi ne répondez-vous pas immédiatement ?» Il faut quand même vérifier un petit peu les choses, s'assurer que ce n'est pas justement une histoire qui court, qui n'a pas de réalité dans la situation pour ne pas faire paniquer les gens. Et puis, une fois qu'on parle, c'est plus important que quand les gens en parlent en rumeur. Donc, il faut dire les choses précisément, savoir de quoi on parle, etc. Donc bon, je comprends que ça prenne 24, 36 heures pour établir le message. Peut-être que ça leur a pris genre un jour de plus, mais entre le moment où tu en entends parler sur Twitter, parce qu'il y a deux personnes qui disent ça, une fois sur deux, c'est un truc qui était propre à la personne en question qui avait oublié son mot de passe dans un cybercafé et ce genre de choses. Je comprends que ça prenne un peu de temps. Si ça leur avait pris une semaine pour communiquer, bon, ça aurait été autre chose, mais deux jours, je crois que ça va encore.
Oui, puis tu peux pas te permettre de faire paniquer toute ta communauté sur un sujet aussi grave trop rapidement, c'est sûr.
C'est ça, ouais. Bon, en même temps, la double authentification, c'est toujours bon à avoir sur tous vos comptes. Donc. Parlons un peu World of Warcraft. La bêta ou l'alpha de Shadowlands a commencé il y a deux semaines, je crois, quelque chose comme ça. Et les retours sont plutôt très bons. Alors, bon, c'est toujours une extension pour World of Warcraft, c'est un événement, mais surtout pour nous, puisqu'on a commencé, Dani, notre carrière de podcasteur avec World of Warcraft. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui apprécient ce jeu, et on était un petit peu tous déçus par l'extension dans laquelle on est aujourd'hui, Battle for Azeroth. Et les premiers retours sembleraient indiquer qu'au niveau du gameplay, il y a des choses très attrayante dans ce Shadowlands, et donc ça serait, on a souvent cette idée que dans World of Warcraft, il y a une extension réussie, une extension ratée, une extension réussie, une extension ratée, et bien après l'extension ratée de Battle for Azeroth, il semblerait que potentiellement ça soit une extension réussie avec Shadowlands. En tout cas, il y a un des nouveaux systèmes qui s'appelle Torghast, c'est la tour des damnés. Et c'est une sorte de roguelike en MMO. Et je vous avoue que quand ils l'ont annoncé, j'étais curieux mais sceptique. D'autant plus que quand ils avaient annoncé les fonctionnalités de l'extension précédente, j'étais enthousiaste et au final, il s'est avéré que c'était plutôt pas bien du tout. Donc là, je garde un scepticisme de rigueur. Et tous les retours, et c'est rare, hein, c'est vraiment très rare dans le monde de World of Warcraft, mais tous les retours semblent être très positifs. Donc Torghast est un roguelike où on doit escalader une tour et on gagne des pouvoirs incroyables qui cassent complètement le jeu, mais ça va parce que c'est isolé dans cette zone du jeu. À chaque fois qu'on progresse dans la tour, on va avoir des pouvoirs en plus et on se retrouve avec des dizaines de pouvoirs qui s'accumulent et qui font un truc hyper fun. En tout cas, les gens qui sont en train de le tester, moi, j'ai pas demandé d'accès à la bêta, je me suis dit, je vais attendre, surtout que j'ai pas le temps et puis j'aime bien les découvrir frais quand j'en ai la possibilité. Mais là, je me dis peut-être que j'aimerais bien y jouer un petit peu quand même, parce que tout le monde semble dire que c'est hyper bien foutu. Donc, je suis très curieux de découvrir ça. Il y a aussi le support du contrôleur des manettes qui va arriver dans le jeu pour des questions d'accessibilité, bien sûr. Mais ça pose aussi la question de, et si à un moment, ils trouvaient un moyen de faire le jeu, de mettre le jeu sur console ? C'est pas totalement impossible. Et puis, il y a des rumeurs sur un auto-battler qui arriverait dans Shadowlands, mais ça, c'est beaucoup moins sûr. C'est vraiment du data mining qui, à mon avis, est une fonctionnalité qu'ils ont testée. Peut-être qu'ils la mettent de côté pour un autre moment dans le jeu. Et puis surtout, il y a aussi dans le jeu actuel double XP permanente jusqu'à la sortie de Shadowlands. Donc si vous voulez y retourner et leveler vos alts, c'est le moment de faire ça. Mais ta température sur Shadowlands, Dani, je sais que toi, tu es on and off sur Warcraft. T'es plus autant qu'à l'époque. Je crois que personne n'est autant qu'à l'époque, mais... tu as suivi un petit peu Shadowlands ?
Ouais. Bah, je suis on en ce moment, je en joue régulièrement.
Ah oui, déjà, dans Battle for Azeroth ?
Ouais.
Ah, je pensais pas, moi, je pensais que t'avais...
Ça a bien bouffé sur mon temps de jeu hors World of Warcraft.
D'accord.
Mais globalement, ouais, l'extension a l'air chouette. J'aime bien l'idée justement de Torghast. À voir s'il y aura l'auto-battleur aussi. Je pense que c'est peut-être une fonctionnalité qui pourrait être marrante dans un MMO et un peu originale. Il y a aussi une chose en fait qu'ils ont annoncée qui avait l'air intéressante. C'est le jeu avait beaucoup été simplifié ces dernières années avec moins de compétences, moins de sorts qui étaient exclusifs à chaque classe, etc. Et finalement, toutes les classes se ressemblaient plus ou moins. Et donc maintenant, ils vont réintroduire apparemment dans Shadowlands ces petits, enfin ces sorts, ces compétences qui donnent un peu de différenciation sur les différentes classes. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de positif. C'était devenu un peu trop, à mon avis, comme une sorte de Diablo, hein, un Diablo-like où tu blastes tout et tout le temps sans même te te concentrer sur qu'est-ce qui différencie une classe d'une autre.
Ils appellent ça le unpruning. Le pruning, c'était quand on prune un arbre, quand on coupe les petites branches.
L'élagage.
L'élagage, voilà. Donc là, ils déselaguent les classes. Donc, ouais, ça a l'air. C'est léger, hein. C'est pas non plus. On retourne pas à classique non plus, mais c'est vrai que ça donne un petit peu plus de goût à chacune des classes et des specs.
À Burning Crusade, à mon avis, c'est là où on avait atteint un des sommets, tu vois, ça c'est un peu, et sur Lich King aussi, mais il y avait tellement de compétences, et j'avais rejoué justement un peu à Vanilla quand ils l'ont relancé il y a quelques mois, et ouais, enfin, t'as pas assez de... t'as tellement d'icônes que tes barres overflow, en fait, et qu'il faut faire des choix sur qu'est-ce que tu priorises ou pas. Bah, c'est le contraire, en fait, dans BFA, et enfin, tu vois, la barre de base, la première, la plus importante, la barre centrale, elle est pas toujours pleine sur tous mes personnages.
Bon, il y a peut-être un bon équilibre à trouver, espérons qu'ils y arriveront. En tout cas, Torghast, ça a l'air d'être une fonctionnalité endgame qui est bien conçue, donc on verra ce que ça donne dans quelques mois pour la sortie de l'extension. C'est en septembre, si je ne m'abuse, donc on a encore le temps. Allez, une dernière... Oui, pardon, vas-y, je pensais que tu jouais pas à Warcraft.
Non, pas du tout, mais ça me fait penser... Enfin, j'y ai joué, mais depuis longtemps. Ça me fait un petit peu penser au système qu'ils ont mis dans Diablo 3, tu sais, avec le tu t'enchaînes les donjons comme ça à l'infini. Et c'est
oui, les failles.
Ah, les failles. Ouais, tout à fait, c'est vrai.
C'est un petit peu
une bonne mécanique bien addictive.
C'est ça, c'est un petit peu de cette manière qu'on décrit que l'on décrit certains. Alors c'est pas exactement la même chose, et puis il y aura plus de limites, etc. Mais oui, c'est comparable par certains aspects. C'est vraiment la mécanique roguelike qui en fait, maintenant que tu le présentes comme ça, c'est vrai que les failles, c'est un petit peu du roguelike en fait aussi. C'est très similaire. Ouais. Allez, dernière série de news, la Gamescom n'aura pas lieu, ça ne surprend personne, enfin elle n'aura pas lieu physiquement, mais elle aura lieu de manière digitale. Alors on peut réappliquer tout ce qu'on a déjà dit sur les événements physiques et numériques, pas digital, numérique, qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant sur l'E3 et tout le reste. Facebook a lancé une application dédiée aux jeux vidéo pour streamer et regarder des jeux. Donc si vous êtes fan de jeux mobiles, eh ben, peut-être que cette app pourra vous intéresser. Elle arrive sur iOS normalement, je pense qu'elle est déjà arrivée, c'est bientôt. Cellardor Games a annoncé Rogue Legacy 2, tiens, en parlant de roguelike, c'est l'un disons que c'est le jeu qui a relancé la mode du roguelike. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il va donner. J'avais pas été super fan du premier, mais là, il y a des fonctionnalités intéressantes dans le second, d'après ce qu'ils disent. Il devrait arriver cet été. Il y a des matchs de FIFA qui se jouent avec des joueurs de la Premier League. Donc, les organisations de sport continuent à essayer de faire quelque chose pour garder leur public. C'est marrant qu'ils se tournent vers le jeu vidéo. Il y a Crysis.
Tu vas devoir le tester, hein, FIFA 20 pour ton audience, parce que j'imagine que ça va être un jeu très populaire. Il faudrait que tu le prennes et que tu passes au moins 30-40 heures dessus. Hein.
Écoute, si tu le fais avec moi, je veux bien.
Oui, alors là, il faudra payer très très cher. Hein.
Escarina, tu es prête à investir dans FIFA Ultimate Team en achetant 72 000 packs de cartes pour qu'on puisse savoir de quoi il en retourne pour en parler à notre audience?
Absolument pas.
D'accord.
D'ailleurs, et pour donner un ordre de grandeur, on parlait d'Animal Crossing il y a pas longtemps. Enfin, c'est Animal Crossing, j'y jouerais à des années-lumière et des dizaines d'heures avant de me mettre sur FIFA. C'est pour vous dire, si toute l'industrie du jeu vidéo s'arrêtait demain et qu'on avait juste les jeux qui sortaient maintenant en main, Animal Crossing, j'aurais 2000 heures de play avant de commencer FIFA.
Oh, c'est... Je suis pas sûr que ça soit à ce point. C'est quand même un jeu de foot. C'est pas si horrible.
Bah, si on peut jouer à plusieurs, ça va. Alors
Seul, oui, c'est sûr.
Si je pouvais tout seul, voilà, jouer en solo, ça m'intéresse pas du tout. Jouer avec des potes, par contre, devant une pizza et tout. Bon, j'aime pas trop le foot, mais why not? Pourquoi pas?
Bon, avec des potes devant une pizza en ce moment, ça va être compliqué quand même.
Voilà, c'est pour ça que bon, il y a peu de chances que ça arrive.
Et puisqu'on parle de FIFA Ultimate Team, il y a la signalétique qui est modifiée par l'ISRB aux États-Unis et le PEGI en Europe pour ajouter la signalétique de contenu aléatoire, contenu d'achat aléatoire, en gros des lootbox. On se souvient qu'ils avaient implémenté une signalétique pour signaler les contenus achetés en jeu au moment de la controverse sur les lootbox. Les contenus achetés en jeu ne voulant évidemment strictement rien dire par rapport aux lootbox, puisque ça incluait tous les contenus achetés en jeu, genre DLC, skin, enfin absolument tout. Et donc là, ça sera spécifiquement dit pour les lootbox. Alors, ça ne change pas les questions sur les lootbox elles-mêmes, mais au moins maintenant, on saura, et ça sera indiqué sur les boîtes et dans les classifications des jeux. Donc même pour les jeux vendus, enfin les jeux gratuits, les jeux en ligne, etc., les parents peuvent se renseigner, ce qui est pas mal. Un remake de Crysis arrive pour refaire suer nos PC. On voit que sur PC, ça sera avec du ray tracing et on imagine que ça sera annoncé pour les consoles prochaine génération aussi. Il va aussi sortir sur Switch, hein, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le CryEngine avec du ray tracing, même pour les cartes graphiques qui ne sont pas prévues pour le ray tracing. Alors, faudra voir ce que ça donne, hein, mais j'imagine que ma petite 970 pourra pas faire énormément de ray tracing, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est le nouveau moteur qui va animer Crysis. Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour septembre, bonne nouvelle. Et Call of Duty Warzone a atteint 50 millions de joueurs dans son premier mois. C'est équivalent à ce qu'avait fait Apex Legends à l'époque, donc confirme son succès. Et enfin, dernière chose, si vous avez une PlayStation 4, même pas besoin d'être abonné au PlayStation Plus, vous pouvez aller télécharger Uncharted Collection et Journey gratuitement d'ici à la mi-mai, je crois. Donc, et vous les garderez jusqu'à la fin de votre vie, en fait. C'est une initiative de Sony, comme on en voit beaucoup partout, pour aider les gens à passer le temps chez eux. Bon, Journée, c'est un très très beau jeu, c'est pas très long. Uncharted Collection, ça fait quand même de la matière. C'est le 1, le 2 et le 3. Bon, ils ont un petit peu vieilli, mais le 2 reste très très bon, à mon avis. Donc voilà, ça fait de quoi faire. Je crois que c'est à peu près tout, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter sur ces dernières news dont on a parlé.
Non, Uncharted, moi je trouve ça super, j'adore cette licence, donc j'espère qu'il y a des gens qui vont la découvrir grâce à ça.
Il y a peut-être deux personnes qui vont jeter sur le site PlayStation pour les prendre.
Ouais, j'étais un peu...
Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent... qui ont déjà joué ou qui les ont
sûrement
déjà achetés depuis le temps. Mais sinon, c'est chouette. Hein. C'est quand même un jeu magnifique qui donne gratuitement. Je trouve ça très, très bon comme initiative.
Ouais, j'étais aigri. Je suis allé sur Twitter en disant genre « Ouais, bah merci pour les deux qui ne les ont pas déjà. Bravo Sony. » Et il y a plein de gens qui m'ont répondu « Bah, non, mais moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. La console, je ne l'ai pas. Et ça, c'est super cool. C'est un jeu gratuit pour passer le temps et tout. Ouais. » Donc, bon, clairement, il y a plein de gens à qui ça fait plaisir. Donc, c'est cool.
Oui, c'est pas étonnant parce que c'est sûr que toi et moi, on est des fous furieux, on jette sur les jeux, les consoles dès qu'ils sortent, mais oui, effectivement.
On représente clairement pas le joueur moyen. On est très, d'ailleurs, ni les auditeurs de cette émission. Je suis sûr qu'il y a certains qui ne l'ont pas, mais on est quand même des gros core gamers. Et ça s'adressait à des gens peut-être un petit peu moins assidus ou des gens qui l'avaient pas, effectivement. Bref. Voilà pour les news de ces deux dernières semaines. Merci à tous les deux d'avoir participé depuis vos confinements respectifs. On va se dire au revoir, mais avant ça, bien sûr, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Escarina, où es-tu sur Internet ?
Alors, on peut me retrouver sur Kiss My Geek, qui est donc mon site d'actualité, on va dire, geek, donc jeux vidéo, séries, cinéma, etc. On est une petite troupe à tenir ce site. On peut me retrouver sur Twitter, sur @Escarina_. Et puis, j'anime aussi dans un autre podcast qui s'appelle Super Gamerside. Mais en ce moment, avec le confinement, vu qu'on enregistre normalement dans la cave de notre animateur, ben, on est contraint à rester chez nous. On n'a pas forcément le matos pour enregistrer de chez nous. Donc, ben, pour l'instant, on attend d'avoir le droit de ressortir pour reprendre les émissions. Et en attendant, j'ai le plaisir de pouvoir continuer ici.
Hey, c'est le plaisir est le mien, Esca. Le mien et celui des auditeurs. Mais vous pouvez aller écouter les anciens épisodes. Si vous avez du temps à perdre, chers auditeurs, vous pouvez aller écouter Super Gamer Side d'avant. C'est possible aussi. Dany, où te retrouve-t-on ?
Eh bah, sur Twitter, notDany, c'est mon handle. Je n'écris pas forcément tout le temps, mais je consulte toujours régulièrement les news, les messages, etc. Et de temps en temps, vous pouvez me voir me plaindre de mes soucis de déplacement. Par exemple, récemment, j'avais envoyé une plainte à British Airways, par exemple, etc. Donc, voilà. C'est rare.
Tu t'en sers.
Autre chose que. Ouais,
que mais enfin, à British Airways, c'est inacceptable en espérant te faire. Rembourser
exactement.
Un truc, oui,
c'est ça. Quoi, il n'y a pas eu de champagne pendant le vin? Oh mon Dieu.
Bon, un autre truc que tu fais aussi, c'est que quand on fait un petit, on envoie un bisou à @NotDany sur Twitter, je vous garantis qu'il répond avec un like et ça fait évidemment très plaisir. Donc,
toujours.
c'est un moyen de communiquer avec @NotDany de cette manière. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. J'ai copié le nom de Dany. NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, comme je le disais. Et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez également la soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Et ça se fait vraiment en 2 minutes. Hein. C'est super rapide, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Non seulement vous soutenez l'émission, mais en plus, vous avez des bonus super sympas que vous pouvez avoir, des épisodes spéciaux, des éditoriaux, j'en ai fait un encore cette semaine, des accès à la newsletter. Enfin, il y a vraiment plein de choses sympas. Donc, si vous appréciez l'émission telle qu'elle est, que vous voulez soutenir et qu'en plus, bah, vous voulez des petits bonus, c'est le meilleur moyen, patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous, je vous fais de gros bisous et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.